Les États-Unis, pour Malcolm X, c'est une prison géante dans laquelle les Noirs sont condamnés à perpétuité. Plusieurs fois, il dira, hein, je ne suis pas un citoyen des États-Unis, je suis noir américain, et le passeport qui un jour pourra m'être donné ne correspond pas à qui je suis. Donc c'est un ensemble d'institutions, de pouvoirs de contrôle et de police qui maintiennent les Noirs dans les chaînes. C'est ça, l'État américain.
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies.
Assalamu alaikum. Malcolm X, Colère noire. Romain Weber, Yvon Croisier. Deuxième épisode, l'enfant du pays.
Maboula Soumaoro, quand je vous ai appelé pour préparer cet entretien sur Malcolm X, vous m'avez dit directement, moi je me méfie des chefs charismatiques.
Ouais, tous et toutes.
Alors est-ce que vous vous méfiez de Malcolm X ?
Oui, surtout que c'est devenu tellement une telle icône et qu'il est tellement révéré que ça empêche toujours la critique et ça empêche toujours... la nuance. Donc, de manière générale, je parlais des leaders charismatiques qui ont toujours deux, trois casseroles derrière eux.
Et Malcolm X, il a des casseroles derrière lui ?
Je sais pas, mais en fait, j'ai du mal peut-être avec les hagiographies. Et, les hagiographies, elles transforment les personnes en héros ou héroïnes. Et c'est un peu simpliste comme figure, la figure du héros. Le héros, il a besoin d'être non humain. Il a besoin d'être exceptionnel, il a besoin d'être sans défaut, sans aspérité, sans... Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je me méfie.
Et en même temps, Malcolm X, ses aspérités, ses failles, ses problèmes, ses déviances, on va dire, bah, il les revendique. Donc dès le départ, même dans son autobiographie, Malcolm X parle de ses problèmes. Il ne se présente pas comme un héros parfait.
Peut-être, d'un point de vue social, pas d'un point de vue humain. C'est-à-dire que quand il va présenter ses failles, c'est comme s'il pouvait dire « voilà, je viens du petit peuple, je viens d'un milieu ouvrier ou modeste, où j'ai été placé en tant qu'enfant, où ma mère a fini dans un hôpital psychiatrique. Voilà, j'ai été macro, j'ai fait de la prison. » Ça, c'est social, c'est public, c'est pas intime.
Lecture pour tous. Pierre Desgroupes, 30 novembre 1966.
Malcolm X, je le rappelle, était peut-être le principal des leaders noirs américains. Avant de mourir, il avait dicté à un journaliste ami, Haley, son autobiographie. C'est cette autobiographie qui vient de paraître en traduction française et dont je veux vous parler car c'est un livre d'importance. C'est un livre... encore une fois, qui a été dicté, qui a les qualités de la parole, la chaleur de la parole. C'est un livre chaud. Et c'est surtout un livre d'une étonnante honnêteté et d'une grandeur indiscutable. Nous avons là un document d'abord, un document sur notre temps, un document sur la société américaine, oui, mais nous avons plus que cela. Nous avons un livre, parce que dans ce livre, il y a le destin d'un homme.
Maboula Soumaoro, vous êtes maître de conférence à l'université de Tours. Vous avez travaillé particulièrement sur les diasporas africaines aux États-Unis. vous nous parlez là, chez Malcolm X, de failles privées. Donc peut-être que c'est des failles qu'on trouve pas dans son autobiographie.
Son autobiographie, c'était quand même une tentative de contrôler le récit de lui-même. Donc en cela, je le trouve très humain. C'est pas à lui de le dire, c'est à nous qui le recevons, qui le lisons. Donc à quelle faille je pense ? Je sais pas, à tout ce qui n'est pas dans l'autobiographie. Donc, mais maintenant, c'est grand et c'est ça qu'on valorise. Il a tout donné, il est mort en martyr. Super.
L'autobiographie ne suffit pas en elle-même pour connaître Malcolm X, évidemment. C'est le propre de ce travail-là. On dit ce qu'on veut dire et on peut toujours dire que ce qu'il y a de plus important dans une autobiographie, c'est ce qui n'est pas dit.
Jonathan Demey, biographe de Malcolm X.
Mais c'est quand même un texte incroyablement prenant, qui a une puissance phénoménale parce qu'il raconte, et c'est effectivement le grand document de sa vie. Et effectivement, il y a des documents, il y a des discours chez Malcolm X, mais la grande œuvre chez Malcolm X, c'est son autobiographie. Et ça va devenir un livre de référence aux États-Unis, un livre de ce qu'on appelle de non-fiction. C'est vraiment un des livres les plus connus et qui a eu un impact très fort chez beaucoup de lecteurs, parce qu'il a eu une vie incroyable et qu'elle est vraiment très bien décrite. Il y a plein de réflexions sur la vie des États-Unis aussi à cette époque-là. Donc c'est un des très très grands livres d'un personnage politique au XXe siècle. En tout cas aux États-Unis, c'est un très très grand livre de ce côté-là.
Sylvie Laurent, historienne.
Alors en réalité, même le fait de dire qu'il l'a écrite est aussi un peu problématique, c'est-à-dire que c'est une coproduction avec Alex Haley. Et certainement, cette autobiographie, elle permet de donner une cohérence et quelque chose comme une trajectoire à une vie qui a été en réalité un ensemble de ruptures et de déviations qui n'auraient peut-être pas le même sens et la même destinée s'il n'y avait pas eu ce livre pour ériger de son vivant quelque chose comme un projet politique. C'est-à-dire que cette biographie, elle est extraordinaire parce qu'elle fait de la vie d'un homme un projet de libération pour un peuple entier.
On se trouve là dans une librairie à Harlem, sur le boulevard Malcolm X, qui s'appelle Revolution Books. Et on est avec vous, Carl Dix, qui êtes un des membres du staff de cette librairie. Vous êtes aussi le fondateur du Parti communiste révolutionnaire américain. Vous pouvez nous expliquer en deux mots ce qu'est cet endroit, le Revolution Books ?
Cet endroit est un centre intellectuel, politique et culturel vers un mouvement pour une véritable révolution.
Parce que le monde est en bordel et il le devient encore plus avec le retour au pouvoir du régime fasciste Trump-MAGA. Revolution Books est un endroit où on invite et on défie les gens de venir pour creuser, discuter et débattre des grandes questions qui agitent le monde et les États-Unis.
Alors je viens dans votre librairie chercher le livre d'un révolutionnaire qui s'appelle Malcolm X et le livre s'appelle L'autobiographie. Est-ce que vous l'avez ici ?
On devrait l'avoir. C'est un de nos livres les plus importants. Et il disparaît parfois de l'étagère. Mais on l'a. Il est là. Avec d'autres livres sur Malcolm. Certains écrits par lui. Et d'autres écrits par ses enfants ou d'autres qui l'ont bien connu. Nous pensons que Malcolm est très important dans l'histoire révolutionnaire de ce pays. Il a poussé toute une génération, pas uniquement les Noirs, mais aussi certains jeunes Blancs, à regarder de plus près ce pays et le mythe de la prétendue patrie de la liberté et de la démocratie. C'est un élément très important de sa pensée.
Approach that black people should address the government only with peaceful
Les Noirs ne devraient demander justice au gouvernement qu'en lui parlant tranquillement.
Malcolm was like, that's begging.
Malcolm disait, c'est de la mendicité. Pourquoi c'est vous qui les suppliez? Ce système devrait avoir honte de ce qu'il vous a fait et devrait changer.
But then they send you over to Vietnam and they train you and unleash you to kill those people.
Mais à la place, ils vous envoient au Vietnam et vous entraînent pour tuer des gens.
To you, nothing to black people.
Des gens qui ne vous ont rien fait, qui n'ont rien fait aux Noirs.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent l'acheter, cette autobiographie de Malcolm X?
Yes, this is a consistent seller.
Oui, c'est un produit qui marche bien. C'est pour ça qu'il faut que je regarde s'il y en a encore sur l'étagère. Parce que beaucoup de gens viennent le prendre. Ils viennent pour ça.
Sylvie Laurent, ce manifeste, je l'ai apporté pour cet entretien, il est juste devant vous. Ben, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble.
Ça marche.
Peut-être au premier chapitre.
Premier chapitre, tout de suite. Alors, j'ai pas mes lunettes, vous allez pas me faire lire. Vous voulez me faire lire, c'est ça? Alors.
C'est quoi le titre du premier chapitre?
Cauchemar, nightmare. Alors que ma mère était enceinte de moi, m'a-t-elle raconté plus tard... Une bande de cavaliers cagoulés du Ku Klux Klan a fait irruption chez nous en pleine nuit, à Omaha, dans le Nebraska. Brandissant leurs fusils et leurs carabines, ils ont encerclé la maison et crié à mon père de sortir.
Malcolm X, l'autobiographie.
Chapitre 1, cauchemar. Alors que ma mère était enceinte de moi, m'a-t-elle raconté plus tard? Une bande de cavaliers cagoulés du Ku Klux Klan a fait irruption chez nous en pleine nuit, à Omaha, dans le Nebraska. Brandissant leurs fusils et leurs carabines, ils ont encerclé la maison et crié à mon père de sortir. Ma mère est allée leur ouvrir. Elle s'est positionnée de façon à mettre son ventre en évidence et leur a dit qu'elle était seule avec ses trois enfants en bas âge. Que mon père était absent, qu'il prêchait à Milwaukee. Toujours en hurlant des menaces, les cavaliers du clan ont finalement éperonné leurs chevaux et galopé autour de la maison, brisant toutes les vitres qu'ils pouvaient avec la crosse de leurs fusils. Puis ils se sont enfoncés dans la nuit avec leurs torches flamboyantes, aussi soudainement qu'ils avaient surgi.
La biographie que vous avez écrite sur Malcolm X, Jonathan Demey, vous la faites commencer par une interview que Malcolm X donne à un journaliste qui s'appelle Claude Lewis à la radio. On est le 31 décembre 64, c'est-à-dire on est à la veille d'entrer dans la dernière année de sa vie. Il lui reste un peu plus de 2 mois à vivre, 2 mois et 21 jours très exactement. Et vous avez relevé cette petite phrase qui dit la chose suivante, je vous laisse lire.
Sincère dans tout ce que j'ai fait ou ce que je vais faire, même si j'ai commis des erreurs, elles l'ont été avec sincérité. Si j'ai tort, j'ai tort avec sincérité. C'est comme cela que je désire qu'on se souvienne de moi.
C'est une clé de lecture, ça, de Malcolm X, sa sincérité ?
Oui, parce que ces changements d'identité sont jamais fins, sont jamais faits par calcul, ils sont faits par réaction à ce qu'il vit. Et il a toujours ce principe de s'actualiser, d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé avant. Et c'est pour ça qu'il ne voudra pas retoucher certains passages de son autobiographie, quand bien même Alex Allais lui propose de revenir sur certains passages. Et par souci de sincérité, il veut laisser ses erreurs pour justement expliquer son comportement. Pour Malcolm X, il ne faut rien oublier de sa vie, parce que c'est ça qui fait que le personnage est complet et qu'on peut comprendre une grande partie des comportements de Malcolm X quand on connaît sa vie.
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un désir de lumière, un désir de célébrité, un désir d'être dans des cercles qui comptent. Est-ce que ça veut dire qu'il était tout simplement très engagé, très investi? Ou est-ce que c'était aussi quelqu'un qui avait besoin de prouver des choses, de se prouver des choses, de prouver des choses à la société états-unienne et au monde? Quand il va dans la Nation d'Islam, il ne fait pas que rejoindre les rangs de la Nation d'Islam. Il devient l'un des leaders. C'est lui qui devient le porte-parole. C'est lui qui devient le visage de la Nation d'Islam qui, jusqu'aux années 50, était très confidentielle. Elle existe depuis les années 30. C'est vraiment Malcolm X qui a médiatisé cette organisation et qui lui a donné un visage, qui lui a donné un bagou, qui voilà, il y a son amitié avec Mohamed Ali, il y a son, je sais pas, ses amitiés même militantes et tous ses voyages. Il était quand même dans le haut du panier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a que lui qui peut le savoir, mais je me dis qu'il y a, peut-être des choses à creuser. Il était quand même pas mal dans la lumière. Il était pas mal dans la lumière.
Il y a un rapport de police, je crois qu'il a 14 ou 15 ans, un truc comme ça. Il vit encore à Lansing, donc dans le Michigan. Son surnom, c'est Lansing Red, et puis il traîne un peu dans la rue, il vole un peu des trucs et tout ça, et puis il se fait remarquer par la police, et il y a un lieutenant qui écrit un rapport et qui dit qu'il est attiré par les spotlights, par les projecteurs, déjà à 15 ans. Vous pensez que Malcolm X est devenu Malcolm X très tôt?
Bah, je pense que Malcolm X a toujours été Malcolm X, que c'est quelque chose qui relève de la personnalité.
On spécule en permanence sur les raisons pour lesquelles je suis comme je suis. Pour comprendre quelqu'un, il faut retracer toute sa vie depuis sa naissance. Notre personnalité résulte de la somme de nos expériences. Tout ce qui nous est arrivé entre dans l'équation.
Pap Ndiaye, vous êtes historien, vous avez travaillé beaucoup sur les Noirs américains, sur l'histoire afro-américaine, et vous êtes aujourd'hui ambassadeur de la France auprès du Conseil de l'Europe. Qu'est-ce qui relève du mythe dans Malcolm X ?
Ça, beaucoup de choses. Je dirais d'abord le personnage, son charisme, ses talents de tribun, capable d'électriser les foules. C'est un très grand orateur, Malcolm X. C'est un homme qui n'a pas fait d'études, à l'inverse d'un King, hein, qui a un doctorat et qui a une dimension très intellectuelle dans son parcours personnel, jusqu'à être pasteur, bien sûr. Malcolm X n'a pas fait d'études, donc c'est un personnage qui vient du monde des gangsters, qui a passé du temps en prison et qui émerge comme cela, de façon absolument remarquable. Il a une dimension internationale très forte, il a voyagé, plus que King, d'ailleurs. Et puis sa mort, bien sûr, il meurt assassiné, il reste éternellement jeune, Malcolm X. Et donc tout cela contribue à faire de cette figure une figure presque christique, éternellement idéaliste.
Si je vous racontais la vie que j'ai vécue, vous auriez du mal à me croire. Quand je parle du blanc, je le fais en connaissance de cause.
Alors, j'aimerais bien qu'on entre dans cette biographie avec vous, Pap Ndiaye. On entre dans quel univers quand on est noir en 1925 dans la ville d'Omaha, dans le Nebraska?
On est à ce moment-là, en 1925, du point de vue historique, à une époque qui est marquée par la ségrégation la plus officielle qui prévaut dans le sud des États-Unis, avec les lynchages qui l'accompagnent et donc les formes de terreur qui maintiennent la population noire dans un état de soumission. Et par ailleurs, depuis la Première Guerre mondiale, à une époque marquée par la migration des Noirs du sud des États-Unis vers les grands centres industriels du Midwest et de la côte Est. C'est le moment où Harlem, par exemple, à partir de 1917, devient un grand quartier noir. C'est le moment où le South Side de Chicago devient un immense quartier noir. Et donc, 1925, c'est ce moment-là qui est ce moment où une partie de la population noire quitte le sud, trime dans les usines et dans les positions les plus basses du monde ouvrier et, par ailleurs, politiquement, acquiert des droits, le droit de vote qui leur était refusé dans le sud. Avec des culturellement des moments très très importants, c'est la Harlem Renaissance à ce moment-là, avec des artistes, des grands écrivains comme Langston Hughes, comme Claude McKay. C'est le moment où le jazz se développe de manière extrêmement forte à New York et à Chicago. C'est le moment où un Louis Armstrong, par exemple, natif de la Nouvelle-Orléans, s'installe à Chicago avant plus tard de s'installer à New York. Donc c'est le moment où la culture noire aussi apparaît dans toute sa force et sa créativité. Et c'est justement à ce moment-là que naît Malcolm X, Malcolm Little, de son nom à Omaha, qui n'est pas une ville noire à proprement parler. Il y a un quartier noir, mais ce n'est pas un grand centre de la vie africaine-américaine comparable à Chicago.
Dans cet endroit, dans le Nebraska, et puis dans énormément d'États aux États-Unis à ce moment-là, il y a évidemment le Ku Klux Klan. Qu'est-ce qui représente politiquement le Ku Klux Klan à ce moment-là, dans ces années 20?
Alors, le Ku Klux Klan triomphe à ce moment-là. Il impose violemment les règles de ségrégation dans le sud des États-Unis, d'une manière générale, la domination qui est exercée sur les mondes africains-américains, qui passe par des instruments de terreur, en particulier par les lynchages. Et c'est l'époque où le Ku Klux Klan domine au point d'attirer une partie des élites locales. On trouve souvent des médecins, des notaires, des avocats qui sont membres du clan. Il a une force, il est capable d'organiser, comme à Washington, de grands défilés, tête découverte, avant le déclin du clan à partir des années 30. Donc on est à une époque qui est une époque difficile, très clairement, pour les mondes noirs en général, et c'est vrai bien au-delà du sud des États-Unis.
I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long that they really don't think I'm human. I have basis on their conduct, not on what they say. And this means that they have become, in themselves, moral monsters.
Ma mère était enceinte. Cette fois de ma petite sœur. La nuit de cauchemar de 1929 est mon premier souvenir brûlant. Je me rappelle avoir été brusquement tiré du sommeil par une effroyable cacophonie de tirs et de cris. En ouvrant les yeux, j'ai vu de la fumée et des flammes. Deux blancs avaient mis le feu à la maison et tenté de s'enfuir. Mon père leur criait et leur tirait dessus. Tout brûlait autour de nous. On titubait. On se cognait les uns aux autres, on trébuchait en essayant d'échapper au feu. Ma mère, son bébé dans les bras, a eu tout juste le temps d'atteindre la cour avant que la maison ne s'effondre dans une pluie d'étincelles. Je nous revois dehors, en pleine nuit, vêtus de sous-vêtements, pleurant et hurlant de toutes nos forces. Arrivés sur place, les policiers et pompiers blancs regardaient la maison se consumer, sans faire un geste.
Anthony Davis, vous êtes compositeur, vous avez composé un opéra écrit en 1986 sur Malcolm X, qui s'appelle X, The Life and Times of Malcolm X, qui a été joué au Met en 2023, je crois. On est en duplex là depuis la Californie, et la Californie qui est en train d'être ravagée par le feu. Et il se trouve que le feu, c'est un élément important de la vie de Malcolm X, il revient à plusieurs moments.
Yes, the fire was something, you know, that tormented his family, you know, from
le feu a tormenté sa famille.
Down, and the fire within him. I mean, we could talk about
avec l'incendie de sa maison. Mais on peut aussi parler du feu qui est en lui. Malcolm, c'est un orateur explosif.
He was able to really galvanize
sans aucune compromission.
And I think fire is a great
il était capable de galvaniser les gens. Je pense que le feu est une très bonne façon de saisir l'énergie de Malcolm, qui est d'abord né dans la rage et qui est ensuite devenu le feu de son intellect. Vous avez fait une interview d'Archie Shepp. Il a un album appelé Fire Music, sur lequel il y a un morceau pour Malcolm. Le feu est quelque chose que j'associe vraiment au mouvement des droits civiques, et particulièrement au rôle de Malcolm.
Dans le premier chapitre de l'autobiographie de Malcolm X, Jonathan Demey, il raconte une scène, on est le 8 septembre 31. On est à Lansing, dans le Michigan. Malcolm X, il a 6 ans, il s'appelle encore Malcolm Little. On est dans la maison des Little. Et le père entre, c'est quelqu'un qui est assez impressionnant. Il est très grand, très costaud. Il a un lapin mort dans la main, il lui arrache la tête, il est furieux, on ne sait pas tellement pourquoi, il la balance, la mère récupère le lapin, elle commence à le dépecer, et là Malcolm X écrit « c'est là qu'elle a eu sa vision ».
Oui, elle a une vision que son mari va avoir des problèmes, qu'il va se faire agresser, qu'il va peut-être même mourir. Elle a une sorte de prémonition, d'instinct, de se dire qu'il va arriver des problèmes à son mari, qui a des problèmes avec le Ku Klux Klan, et notamment un groupe qui est affilié au Ku Klux Klan, qui est la Légion Noire. Et effectivement, ce jour-là, elle se dit que son mari va avoir des problèmes et qu'il peut lui arriver malheur très prochainement.
Il y a Ilia Shahbaz, vous êtes la troisième fille de Malcolm X et de Betty Shahbaz. Dans une des dernières biographies qui est sortie sur votre père, sur Malcolm X, qui s'appelle « The Dead Are Arising », je lis la citation suivante. « Au fil des générations, le clan Little semblait hanté par le spectre de la mort et du désastre. C'était comme si une malédiction shakespearienne s'était abattue sur cette famille américaine. » Qu'est-ce que c'est que cette malédiction dont cette biographie parle?
What is the curse?
Quelle est la malédiction?
Well, I don't think that my family has been cursed. If anything, I think that
je ne crois pas que ma famille soit maudite. Je pense plutôt que c'est une bénédiction d'être en vie, d'avoir la possibilité de s'épanouir et de le rendre à la société, d'être éclairé. Mon père était très éclairé. Il le tenait de son père, et c'est pour ça qu'il servait leur communauté, et au sens large. Malcolm continue d'être une icône dans le monde grâce à son sens moral.
Mais pourquoi est-ce que cette biographie, elle parle de malédiction? Qu'est-ce qui leur fait penser qu'il y a une malédiction sur votre famille?
Well, listen, you know, when you look at his father, but there's so many people. We can look at the people
in Palestine. Regarde son père, mais si on regarde les gens en Palestine, les gens en Bosnie, les gens en Ukraine, il y a de la destruction sur cette planète qui touche les personnes et les peuples. Ça ne veut pas dire qu'on est maudit. Ça veut simplement dire qu'il y a des défis. Certains voient ça comme ça. Ce n'est pas mon cas. Ma mère n'a pas élevé ses filles comme ça. Ma mère a assisté au tragique assassinat de son mari. Elle était très jeune. Pourtant, elle n'est pas tombée dans l'amertume ou le désespoir. Elle a élevé ses six filles. Pour elle, « je ne peux pas » n'a jamais été une option. Et elle a trouvé sa voie. Donc, si on aborde ça sous l'angle de la défaite ou du désespoir, on peut dire qu'il y a une malédiction. Mais si on regarde le verre à moitié plein, alors on comprend que ce n'est pas une malédiction, mais la possibilité de transformer la tragédie en triomphe.
Est-ce qu'il est certain, Ilia Shahbaz, que votre grand-père ait été assassiné par des suprémacistes blancs? C'est ce que dit Malcolm X, votre père, dans son autobiographie, mais j'ai lu dans plusieurs biographies que ça n'était pas quelque chose de 100% sûr.
On est certain que c'est la vérité. Et il y a maintenant une plaque à l'endroit où son corps a été placé sur les rails. Et c'est très malheureux, mais c'était très fréquent comme lynchage à l'époque. Ils ont noté qu'il avait été frappé derrière la tête et qu'il a ensuite été placé sur les rails.
Les historiens ne savent pas si vraiment ce sont les militants du Ku Klux Klan qui ont tué son père, s'il s'est suicidé, etc. On n'a pas vraiment de preuves historiques pour étayer ça, mais une fois encore,
Sylvie Laurent,
ça n'a pas tellement d'importance en réalité. Les parents de Malcolm X sont des militants de la mouvance noire nationaliste initiée par Marcus Garvey. Les Garveyites sont persécutés par le FBI, on le sait. Être un noir qui veut se politiser et porter une parole de rébellion aux États-Unis, c'est déjà être sous la menace de représailles et peut-être d'une peine de mort. Donc que cet épisode-là, ou non, soit véridique historiquement, ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il décide d'ouvrir le récit de comment je suis devenu Malcolm X par l'assassinat de son père, par les racistes américains. Et lorsque votre vie s'ouvre comme ça, ou qu'en tout cas, vous racontez votre vie comme étant celle-ci, alors forcément, ensuite, tout en découle.
Malcolm, my people, dear God, Malcolm.
Il y a un des frères de Malcolm X qui dit, j'ai lu ça dans une biographie, ma mère s'est arrêtée de chanter.
Elle se retrouve toute seule, évidemment. Elle n'a que 1000 dollars d'indemnité suite au décès de son mari, qui sont très rapidement engloutis. Elle n'a que 3 dollars par enfant et par semaine pour subvenir. Donc elle se retrouve dans une extrême pauvreté. Malcolm X utilise une belle expression, il dit que sa famille en était arrivée à manger le trou du beignet, ce qui veut quand même tout dire. Et comme elle a une certaine fierté, elle accepte de payer à crédit, mais elle ne veut pas les aides alimentaires. Donc ses enfants ont faim. Malcolm Little à cette époque-là commence à voler pour se nourrir. Il ne comprend pas l'attitude de sa mère. Et forcément, comme les enfants ont faim et que leurs comportements ne sont plus adaptés à l'école, par le décès de leur père, ce qu'on comprend bien, les services sociaux commencent à s'intéresser à cette famille et elle perd la garde des enfants. Elle a même un épisode un peu compliqué sur le plan mental où elle est retrouvée errante et on lui retire ses enfants. Et Malcolm et ses frères sont placés en famille d'accueil à partir de ce moment-là.
Ma mère est restée à l'hôpital de Kalamazoo pendant environ 26 ans. Plus tard, alors que je vivais dans le Michigan, j'allais parfois lui rendre visite. Rien ne me fera jamais autant de peine que l'état misérable dans lequel je la voyais. C'était bien pire que si elle avait été atteinte d'une maladie physique. Chaque fois que j'allais la voir, au moment où il l'emmenait en faisant d'elle un numéro, j'étais encore plus triste. La dernière fois que j'y suis allé, en 1952, j'ai su que je ne reviendrai pas. J'avais 27 ans. Philbert m'avait dit qu'à sa dernière visite, elle l'avait plus ou moins reconnue. Par moments, m'avait-il dit. Moi, elle ne m'a pas reconnu. Elle me regardait fixement, sans savoir qui j'étais. J'essayais de lui parler, mais son esprit était ailleurs. Je lui ai demandé, « Maman, sais-tu quel jour on est ?» Elle m'a répondu, le regard fixe, « Tout le monde est parti. » Je ne peux décrire ce que j'ai ressenti. La femme qui m'avait mise au monde, soignée, conseillée, aimée, ne me reconnaissait pas. C'était comme si j'essayais de gravir une montagne de plumes.
A hill of feathers, wow.
Une montagne de plumes.
You know, it must have been very painful.
Vous savez, ça doit être très douloureux pour un enfant. D'avoir eu une mère qui semblait invincible et résistante, remplie d'amour et de confiance, et de la voir démunie. De venir d'un foyer intact, avec un père que ses enfants voyaient aussi comme quelqu'un d'invincible. Il était grand, il mesurait 2 mètres, il était noir, il avait son haut de forme et sa voiture. C'était le chef de la famille et de sa femme. D'avoir été dans cette famille remplie de discipline, de morale et de bonheur, et de vivre maintenant sans votre père, sans que personne ne vous explique ce qu'est la mort, ce qu'est l'injustice. Et ensuite, sa mère est emmenée. Et il n'y a pas de traitement. Personne pour dire, Malcolm, ça va aller. Ton père repose en paix. Ta mère sera comblée par la grâce de Dieu. Il y a une lettre que Malcolm a écrite à son frère quand il était en prison. Il avait du temps pour réfléchir et il a dit, « Tu sais, Reginald, ta réussite, c'est ma réussite. Et ma réussite, c'est ta réussite. Et notre réussite, c'est la réussite de maman. Je trouve que c'est très beau, très poignant et très attentionné.
À propos de votre père, Ilias Achabaz, James Baldwin, qui est le grand romancier afro-américain contemporain de Malcolm X, dit, en parlant de son enfance, « C'est l'histoire de n'importe quel noir dans cette époque et ce lieu curieux. »
Oui, il a raison. C'est l'histoire des noirs de cette époque, d'être pris pour cible, d'être dénigré et de subir toutes ces atrocités. Ces hommes ont commis des atrocités.
C'est une enfance qui est marquée par le racisme au fer rouge,
Papendiaï.
Par la violence et la terreur que le clan exerce sur beaucoup de familles africaines-américaines un peu partout aux États-Unis, et notamment dans le Midwest. Le Midwest est un lieu majeur de lynchage avec le sud des États-Unis, surtout dans les villes petites et moyennes où le clan dispose de moyens d'action, de liens avec les polices locales qui lui permettent d'agir avec une quasi-impunité et à l'abri donc de la police et de la justice.
Impunité d'ailleurs qui se voit sur aux cartes postales, par exemple, par centaines qui montrent des lynchages. Qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces cartes postales ?
Ces cartes postales, elles veulent dire une chose, c'est que les lynchages n'étaient pas organisés de manière clandestine à l'insu de la population. Les lynchages étaient annoncés dans la presse locale à l'avance. Demain, à 17h, un homme va être lynché, venez tous. Il arrivait que les écoles donnent congé pour aller voir le lynchage. C'est dire si le lynchage était un spectacle, un événement auquel on se pressait. Et on a des cartes postales avec des gens qui envoyaient ces cartes postales à des amis ou à de la famille à l'autre bout du pays, avec des mots d'affection d'un côté et puis de l'autre un cadavre, un homme pendu ou brûlé.
Et avec la foule autour.
Et avec la foule autour, la presse locale, bref, des événements ritualisés de manière atroce. Il arrivait que les cadavres, d'ailleurs, soient mutilés, qu'on prélève un organe pour l'offrir au gouverneur local, par exemple. Southern trees bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. When Malcolm was a young boy and his father was lynched,
quand Malcolm était jeune et que son père a été lynché, que sa mère, 10 ans plus tard, a été internée contre sa volonté, que le terrain de sa famille a été saisi, que les enfants ont été séparés et placés dans des familles d'accueil, quand son professeur préféré lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?»« Je veux être avocat. » Et son professeur lui a dit, tu ne peux pas, tu es un nègre. Les nègres ne peuvent qu'être charpentiers et être manuels. C'était décourageant. Et il n'avait pas sa mère ou son père pour lui dire, Malcolm, ne l'écoute pas, tu peux être avocat, tu es formidable. Dieu a créé ce beau jeune homme pour qu'il devienne ce qu'il veut. Quand il a été arrêté, il a dû confronter toute cette souffrance qu'il fuyait. Et c'est là qu'on voit qui est Malcolm, sans racisme, sans oppression. Et ce qui est magnifique avec Malcolm, c'est qu'il a grandi et partagé avec tellement de gens et qu'il croyait en notre humanité, avec des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des agnostiques.
Sylvie Laurent, quelle place il a, Malcolm X, dans l'histoire du racisme aux États-Unis ?
Peut-être que c'est le premier qui postule que le racisme n'est pas l'objet d'une forme d'archaïsme du sud des États-Unis hérité de l'esclavage, mais qu'il est aussi américain que la tarte aux pommes, pour reprendre une phrase d'un des fondateurs du mouvement des Black Panthers. C'est-à-dire que c'est celui qui comprend que pour déraciner le racisme, il faut plus aux États-Unis que des droits civiques, qu'une liberté formelle, qu'un droit de vote, et que la mise à bas de la superstructure politique qui a mis le racisme en place dans un premier temps. Pour être parfaitement honnête, Martin Luther King aussi a cette intuition-là, mais il est plus formaliste dans sa lutte antiraciste, c'est-à-dire que Malcolm X ne vient pas de cette tradition chrétienne fondamentalement optimiste qui est celle du premier mouvement des droits civiques, nourri de l'Église noire avec l'idée d'une rédemption à venir. Malcolm X ne croit absolument pas en la rédemption, il pense que, en effet, là où certains font un rêve, lui fait un cauchemar. Et donc il y a quelque chose de systématique et d'absolument intransigeant dans l'idée que quelque chose comme un racisme institutionnel, systémique et profondément ancré dans l'histoire du pays, nous interdit de croire au salut après la mort, nous interdit de croire à la rédemption, nous interdit de croire que les États-Unis sont une nation fondamentalement bonne qui, malheureusement, par un errement malheureux, s'est fourvoyée. Donc il est celui qui refuse de se laisser aveuglé et impressionné par le drapeau étoilé. Et d'une certaine façon, je pense que Martin Luther King, lui, était assez fier d'être américain, d'une certaine façon. Ou en tout cas, il voulait devenir fier d'être américain.
Archie Shepp, est-ce qu'il vous arrive de repenser de temps en temps à Malcolm X ?
Ah oui, souvent.
Souvent.
Est-ce que vous vous souvenez l'avoir vu parler dans la rue à Harlem ?
Ah oui. Il y a un jour, il m'a fait un grand discours. Quand on fait un discours en public, politique.
Quand on fait un discours en public, politique.
On est obligé d'avoir un drapeau. Normalement, le drapeau est très grand et. Tout le monde peut voir. Mais il a acheté un petit drapeau. Presque impossible à voir. Le drapeau des États-Unis.
Il a dit
ton père a été tué sous ce drapeau. Ta mère a été violée sous ce drapeau. Et chaque fois, l'audience a dit oui. Et il y avait des polices blancs. Ils étaient disturbés par cette réponse de l'audience.
Ils étaient un peu dérangés par cette réponse de l'audience.
Et ils ont tourné rouge. Mais Malcolm a continué dans cette manière à parler. C'était impressionnant. On peut acheter des grands drapeaux qui tout de suite très visibles par tout le monde. Mais il a choisi un drapeau presque impossible à voir. Mais son discours autour de ce drapeau était très fort. Il a détesté les États-Unis pour
Il détestait les États-Unis pour ce qu'ils ont fait contre les Noirs.
Archie Shepp, vous êtes saxophoniste. Vous êtes né en 1937 en Floride. Ensuite, vous avez vécu à Philadelphie. Vous êtes allé vers 17-18 ans. Vous avez emménagé à Harlem.
Oui.
Et vous avez commencé votre carrière de jazzman là-bas. Et vous êtes devenu ensuite une grande figure du free jazz. Est-ce que vous vous souvenez du jour de la mort de Malcolm X?
Ah oui, bien. C'était annoncé qu'il était tué à la Audubon Ballroom en Harlem.
Il a été annoncé qu'il avait été tué à l'Audubon Ballroom à Harlem.
Vous avez écrit un poème sur la mort de Malcolm X.
Oui. Ça s'appelle Mama Rose. C'était une dédicace à ma grand-mère.
C'était une dédicace à ma grand-mère.
Et à Malcolm.
Et à Malcolm.
Ma grand-mère était beaucoup engagée.
Ma grand-mère était très engagée.
Le mouvement des droits civils.
Dans le mouvement des droits civiques.
Et j'ai fait une connexion.
Malcolm X, c'était un homme qui a perdu son père très tôt, qui ensuite a vu sa mère sombrer dans la folie. Et moi, ça me rappelle un morceau que vous avez joué sur un de vos derniers albums avec Jason Moran au piano, qui s'appelle « Sometimes I feel like a motherless child ».
Oui. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. True believer. True believer, a long way from home. Cette morceau, il y avait beaucoup de relations.
Ce morceau a beaucoup de relations.
Avec la mort de Malcolm.
Avec la mort de Malcolm.
Et mes peuples en général.
Et mon peuple en général.
Let my people go. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard, they could not stand. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell O Pharaoh, tell O Pharaoh, let my people go.
America's problem is us. We're her problem. The only reason she has a problem is she doesn't want us here. And every time you look at yourself, be you black, brown, red, or yellow, a so-called Negro, you represent a person who poses such a serious problem for America because you're not wanted. Once you face this as a fact, then you can start plotting a course that will make you appear intelligent instead of unintelligent. What you and I need to do is learn to forget our differences. When we come together, we don't come together as Baptists or Methodists. You don't catch hell because you're a Baptist, and you don't catch hell because you're a Methodist. You don't catch hell because you're a Methodist or a Baptist. You don't catch hell because you're a Democrat or a Republican. You don't catch hell because you're a Mason or an Elk. And you sure don't catch hell because you're an American, because if you was an American, you wouldn't catch no hell. You catch hell because you're a black man. You catch hell, all of us catch hell for the same reason. So we are all black people, so-called Negroes,
second-class citizens, ex-slaves. You're nothing but an ex-slave. You don't like to be told that. But what else are you? You are ex-slave. You didn't come here on the Mayflower. You came here in a slave ship, in chains, like a horse or a cow or a chicken. And you were brought here by the people who came here on the Mayflower. You were brought here by the so-called pilgrims or founding fathers. They were the ones who brought you here. We have a common enemy. We have this in common. We have a common oppressor, a common exploiter, and a common discriminator. So once we all realize that we have this common enemy, then we unite on the basis of what we have in common. And what we have foremost in common is that enemy, the white man. He's an enemy to all of us. I know some of you all think that some of them aren't enemies. Time will tell.
Ce que nous partageons avant tout, c'est un ennemi. L'homme blanc. C'est notre ennemi à tous. Je sais que certains d'entre vous pensent que certains d'entre eux ne sont pas des ennemis. Le temps le dira.
À la radio, Anthony Davis, les auditeurs vont rencontrer Malcolm X, d'abord par sa voix. À quoi est-ce qu'elle ressemble, sa voix ? J'aimerais bien avoir votre avis en tant que compositeur.
Oh, his voice is very unique.
Sa voix est unique.
Has an interesting cadence.
Elle a une cadence particulière.
His voice has a kind of ring.
Et il y a de la résonance. Il y a aussi de l'esprit, de l'humour et de l'imprévisibilité qui fait qu'il peut passer d'un sujet à l'autre. Il peut utiliser son humour pour désarmer et en même temps, c'était mordant. Ça pouvait être corrosif. Quand il dit, par exemple, quand j'étais petit, on m'appelait tellement nègre que je pensais que c'était mon nom. C'est un jeu de mots. Quand j'étais petit, Little, c'est quand j'étais petit garçon. Mais c'est aussi quand il était Malcolm Little. Je compare toujours Malcolm X et Martin Luther King. Et je trouve que la voix de Martin Luther King sonne plus comme Coltrane. La tradition du prêcheur baptiste, très mélodique. Et les discours inspirants à la manière d'une chanson. Malcolm est beaucoup plus succinct, acéré. Il change de direction. Ça me fait plus penser à Miles Davis. Je trouve qu'il y a un parallèle entre ces deux icônes de la musique des années 1960 et Malcolm X et Martin Luther King.
One thing is Malcolm was very influenced by music.
Malcolm était très inspiré par la musique.
So, you know, working the dance halls in Boston.
Il était entouré de musique. Il avait travaillé dans les boîtes de jazz à Boston, puis à New York.
And I think that
tous les musiciens connaissaient Malcolm X. Et je crois qu'on retrouve cet esprit d'improvisation dans sa rhétorique.
Anthony Davis, vous avez écrit un opéra qui s'appelle X. The Life and Times of Malcolm X. Alors, tout simplement, comment est-ce que l'idée vous est venue ?
Well, actually, how it happened, it transpired was my
mon frère jouait le rôle de Malcolm X dans une pièce qui s'appelait El Hadj Malik.
And my brother was very excited.
Il était très enthousiaste et il m'a dit, tu devrais écrire une comédie musicale sur Malcolm X. Et j'ai dit, je ne pense pas que ce soit une comédie musicale. Il faut un opéra, parce que c'est un héros tragique. Pour moi, Malcolm incarne ça.
Dans votre opéra, Anthony Davis, vous commencez le récit de la vie de Malcolm X avec la mort de son père. Et il y a la mère de Malcolm X qui dit, c'est un garçon né dans la terreur et marqué par notre peur.
Oui, parce que c'est un cycle de meurtre et de mort. Et bien sûr, l'assassinat intervient à la fin de l'opéra. Mais la violence est toujours présente. Comme Edge Rapp Brown dit, la violence est aussi américaine que la tarte aux pommes. Donc la violence est comme un moteur autodestructeur en Amérique qui est toujours présente. Et elle l'est dans l'opéra aussi.
My hope is white men killed my old man.
La vérité, c'est que des hommes blancs ont tué mon vieux et rendu ma mère folle. Ma vérité est brutale. Ma vérité peut tuer. Ma vérité est une furie.
L'enfant du pays. Avec Sylvie Laurent, Maboula Soumaoro, Jonathan Demey, Karl Dix, Pap Ndiaye, Anthony Davis, Ilyasa Chabaz et Archie Shepp. Malcolm X est interprété par Biran Ba.
On m'a toujours dit... T'as aucune chance. T'es rien qu'un nègre. Tu peux sautiller. Tu peux te pavaner. Tu ne mèneras jamais la danse.
L'autobiographie est traduite par Anne Guérin, Gaëlle Diffère et Marie Herman et parue aux éditions Hors d'atteinte. Vous avez entendu les voix de Prudence Castelot, Pauline Ziadé, Bonnie Charles, Myriam Ajar et Anne de Peufeyou, enregistré par Nadège Antonini et Claire Levasseur.
Ma vérité me disait... Laisse tomber avant même de commencer. Ma vérité me disait... Reste en vie, c'est tout ce que t'as.
Vous avez également entendu des extraits de l'opéra X, The Life and Times of Malcolm X.
I've shined your shoes.
J'ai ciré tes chaussures.
I've sold your dope.
J'ai vendu ta dope.
Hold your bootleg. Live with us as hope.
J'ai transporté ton alcool frelaté.
The crime is mine.
Pourtant, c'est mon crime.
I will do your time so you can sleep.
Et je purgerai ta peine pour que tu puisses dormir.
I won't be out to get you on the street at night, but I won't forget.
Tu ne serai pas dehors la nuit pour te régler ton compte. Je n'oublierai rien du mal que m'a fait l'homme blanc. Ma vérité est un marteau qui vient par derrière. Elle te frappera quand tu t'y attendras le moins. Je ne te dirai pas ce que je sais. Tu veux la vérité? Tu veux la vérité, mais tu ne veux pas savoir.
Merci à Monette Bertonnier, responsable éditoriale Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, Malcolm X, Colère Noire, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.